cet espace forum avec les boutiques, la thématique des boutiques éco-conçues, puisque c'est l'éco-responsabilité est au centre de bien des conversations aujourd'hui pour limiter notre impact environnemental. Nous pouvons aussi nous interroger au moment de la création de points de vente et à bien des niveaux. On va le voir avec nos invités. À ma droite, Alazaïs Cayol, vous êtes responsable marketing d'un programme qui s'appelle Baisse les Watts. À votre côté, il y a Bastien Rambaud, cofondateur de Vesto. Vous, votre job, c'est de reconditionner du matériel, mais vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Et puis en face de moi, il y a Philippe Sabajol. Vous êtes directeur d'un cabinet d'architectes qui s'appelle Isospace. C'est bien ça?
Oui, absolument.
Bon. Eh bien, Philippe, nous allons commencer par vous. Puisque à la base, il y a le projet, il y a la définition de la boutique. On dessine, vous mettez, j'imagine, sur le papier les idées des interlocuteurs que vous avez face à vous. Alors déjà, aujourd'hui, est-ce que, je dirais, l'éco-conception a le vent en poupe?
Alors, d'abord, peut-être on peut commencer par définir ce qu'est une
l'éco-conception.
L'éco-conception d'une boutique. Pour nous, chez Isospace, l'éco-conception d'une boutique, c'est le respect de nos engagements RSE. Et donc, ça veut dire que dès le coup de crayon, dès la conception, on va réfléchir en éco-conception. Ça va passer par la démolition, le curage, et ensuite la reconstruction de la boutique. Pour répondre à votre question avec précision, 10% seulement de nos clients aujourd'hui font une demande de boutiques éco-conçues. Il y a 10 ans, c'était zéro. Ensuite, la manière dont on adresse ça, de notre côté, c'est qu'on a mis sur place un comité RSE, je ne sais plus comment on l'appelle chez nous, on a un comité RSE où certains collaborateurs motivés sont venus nous aider à réfléchir à l'éco-conception. Sourcer des fournisseurs, sourcer des nouveaux produits, des idées, le réemploi. On va peut-être en parler, mais c'est comme ça qu'on raisonne dans notre agence.
Donc là, aujourd'hui, vous avez, quand vous parlez d'éco-conception, ça concerne exclusivement, je dirais, la déstructuration d'une boutique existante ou il s'agit de nouveaux projets?
C'est un processus parabolique qui va de A à Z. Soit on part d'une coque qui n'existait, qui est neuve, donc on va construire à partir de zéro, et là on éco-conçu depuis le début. Soit on doit démolir et on peut réemployer, je sais que c'est ce que tu fais un petit peu, on réemploie les matériaux, on réfléchit à la bonne manière de déconstruire, est-ce qu'on doit tout casser, est-ce qu'on doit conserver une partie des choses qu'on fait. Dans le coup de crayon, on va également penser, mais ça, certainement tu vas l'aborder, la manière dont on va aborder les énergies, l'éclairage en particulier dans une boutique, c'est très important. Les nouveaux produits, il y a des nouveaux produits des produits qui sont upcyclés, qui sont recyclés, du réemploi. On réfléchit à ces produits-là. Ça pose certains problèmes, mais on réfléchit à mettre en œuvre ces ouvrages.
Est-ce qu'il est simple de réemployer c'est l'existant, de casser quelque chose pour en préserver certaines et pour les réintégrer au projet nouveau?
Alors, tout est faisable. 10% seulement aujourd'hui des gens qui viennent nous voir réfléchissent en éco-conception. Ça n'empêche pas que c'est une injonction sociétale aujourd'hui. Parallèlement à ces 10%, il faut mettre en parallèle le fait qu'une boutique éco-construite, c'est 30% supplémentaire en termes de budget. Donc quand on dit est-ce qu'il est simple de recycler, ça s'impose à nous en réalité. Alors, je sais pas, j'ai oublié ta question, je suis désolé.
Non, mais est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'on impose des règles, est-ce qu'il y a des lois aujourd'hui qui existent et en fait, en matière de construction, on vous impose d'utiliser certains matériaux?
Il y a trois difficultés à l'éco-conception. La première, c'est le prix. Je viens d'en parler, c'est 30% supplémentaire. La deuxième, c'est les normes qui sont imposées pas seulement en éco-conception, mais en conception et en construction de boutiques tout court. On doit respecter un certain nombre de normes. Les boutiques sont classées ERP, établissements recevant du public. Ça veut dire que certains matériaux doivent répondre à certains critères, au feu, aux émanations, tout un tas de sujets comme ça qui posent une vraie difficulté parce que les produits upcyclés de réemploi qui sont recyclés ne répondent pas tous à la norme. Et donc, on ne peut pas les mettre en œuvre. C'est la deuxième difficulté. À part le prix, la disponibilité des produits qui répondent à la norme, et la troisième difficulté qu'on rencontre, c'est l'œil. Parce que les produits upcyclés ne sont pas encore rentrés dans les standards de décoration et certains ne sont pas très, très beaux.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle, vous pourriez nous citer un exemple de produits upcyclés?
Typiquement, dans les boutiques, on utilise, vous le savez, on utilise beaucoup de panneaux qui sont des panneaux de particules, donc c'est comme chez IKEA, donc on broie du bois et on met de la colle dessus, on compacte et on met un décor. Aujourd'hui, on est capable de prendre des bouteilles de plastique, de les broyer et de faire ce même type de panneau. La difficulté, c'est que le plastique, ça n'a pas les mêmes émanations que le bois, au feu. Voilà, donc ces produits ne sont pas encore classés. Quand ils le seront, on pourra les utiliser.
Et quels sont les matériaux, si on peut en lister certains, qui sont, je dirais, éco-responsables, qu'on doit privilégier?
Tous les matériaux naturels, le bois, la terre, le plâtre, tous ces matériaux sont pratiquement les matériaux qui sont les moins transformés. On a eu un prix de design pour ça il y a 18 mois. On a fait une boutique en boulangerie qui s'appelle Copain, où on a utilisé du béton. Alors c'est une boutique qui est dans le barré, hein, ça s'adresse à un marché très particulier. On a utilisé du béton et du bois. Donc on a pris les structures étaient en bois et on les a ensuite habillées, si je puis dire. C'est un petit peu plus utile que ça techniquement, mais on les a habillées en béton.
Voilà. Donc on met du béton autour du bois?
On peut le faire.
Mais quel est l'intérêt?
En éco-conception, le bois et le béton, enfin le plâtre, sont des produits naturels. Et au feu, ça résiste très bien.
Ok, d'accord, voilà. J'avais pas saisi, justement, c'est pour ça que je voulais comprendre l'intérêt de faire cela. Alors, en matière d'éco-responsabilité, donc, on va passer la parole à Bastien. Alors, vous, donc, Vesto, vous allez récupérer une partie du matériel pour, je dirais, lui refaire une beauté et le réemployer, c'est ça? C'est certainement un peu plus subtil que ça.
Ouais, exactement. Donc, refaire une beauté, ce serait ce que nous, on appelle le reconditionnement cosmétique. C'est une des deux étapes. Le cœur de notre métier, nous, c'est plutôt le reconditionnement technique. Donc, ce qu'on fait chez Vesto, on collecte du matériel partout en France. Matériel de restauration, des métiers de bouche, matériel de salle aussi un petit peu aujourd'hui, tables, chaises, vitrines. On rapatrie tout dans une usine qu'on a, dans laquelle le matériel va être remis en état et remis aux normes. Donc, c'est deux activités différentes. La première activité, c'est du reconditionnement, remettre en état. On prend une machine et on la remet dans l'état où elle était lorsqu'elle est sortie de l'usine. On va faire ça pour des fours, des friteuses, des pétrins. Ça reste un pétrin. Simplement, on le remet dans l'état où il était lorsqu'il est sorti de l'usine. Et ensuite, on lui fait une beauté, donc reconditionnement cosmétique, pour faire en sorte qu'il ait une bonne qualité d'usage. On a une deuxième activité qui se développe de plus en plus, qui s'appelle le rétrofit, dans lequel on va prendre une machine qui n'est plus aux normes et lui faire subir des transformations pour la remettre aux normes. Donc, ça peut être des normes techniques ou des normes esthétiques. Par exemple, des normes techniques, ça va être, on va prendre des équipements frigo qui sont sur des gaz qui ne sont plus autorisés aujourd'hui, et on va refaire intégralement le système froid pour les passer sur des gaz dits propres aujourd'hui. Ça peut être aussi des normes d'usage, des normes esthétiques. On va prendre des vitrines qui ont été faites au début des années 2000. Aujourd'hui, on les trouve affreuses. Et on va les réhabiller avec des matériaux issus de l'économie circulaire, pour faire en sorte que ça puisse être remis en circulation au goût du jour. Donc ça, par exemple, nous, on utilise les fameux matériaux faits à partir de plastique, des matériaux faits à partir de volants de badminton broyés, compactés. C'est hyper joli. Et ça fait des vitrines qui sont reconditionnées dans leur partie technique et rétrofitées dans leur partie esthétique. L'avantage qu'on a, on en parlait tout à l'heure un petit peu avec Philippe, c'est que dans le réemploi de matériel, on est sur du matériel qui sort à moins 50 par rapport au prix du neuf. 50% moins cher que neuf. Donc nous, on propose une écologie qui est économique, ce qui fait que, globalement, il y a beaucoup moins de freins à la mise en mouvement. On a des gens qui viennent nous voir avec une conviction écologique très forte, d'autres qui viennent nous voir simplement avec des impératifs économiques. Dans un cas comme dans l'autre, ça conduit à une boutique qui est plus sobre, à un impact écologique qui est beaucoup plus faible.
Vous avez une grosse partie de gens qui viennent vous voir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui commence à être connu. On vient chercher ces économies-là au départ.
Ouais, de plus en plus. Il y a une loi qui est rentrée en application là au 1er janvier de cette année, la loi AGEC, qui pousse les collectivités publiques à mettre 20% de matériel de seconde main dans leurs appels d'offres. Les collectivités publiques, c'est des très très gros acheteurs, mais c'est aussi des très gros meneurs de tendance. Donc quand une collectivité commence à faire quelque chose, elle le fait savoir. et ça cascade. Aujourd'hui, nous, on a un peu plus de 85% des gens qui font appel à Vesto, qui viennent par le bouche à oreille. Donc, on voit que c'est vraiment... on n'est pas en train de faire du porte-à-porte pour proposer notre solution. C'est quelque chose qui cascade de lui-même.
Et ce matériel, comment est-ce que vous l'identifiez? Comment est-ce que vous allez le récupérer? On fait appel à vous ou vous êtes en veille, je dirais, pour d'une manière ou d'une autre, pour savoir où aller récupérer le matériel, à reconditionner, à retravailler?
Alors, on fait beaucoup appel à nous, notamment des installateurs de matériel neuf, okay, qui jusqu'à présent jetaient le matériel à la ferraille et qui tout d'un coup se rendent compte déjà de l'absurdité de mettre à la ferraille du matériel qu'ils ont vendu il y a 3 ans. Ils savent très bien que le matériel fonctionne encore. C'est une absurdité écologique, c'est une absurdité économique. Et donc, c'est principalement eux qui nous approvisionnent en matériel.
Et qu'est-ce qui fait qu'on jette du matériel alors qu'il n'a que 3 ans ?
Il y a à peu près autant de raisons que de matériel jeté. Ça peut être, on a ouvert avec un concept, on se rend compte que ce n'est pas le bon concept. On a conçu une cuisine, on se rend compte que ce n'est pas exactement la bonne cuisine. Ça peut être un changement de chef, un changement d'activité, une faillite. Donc, il y a vraiment autant de raisons qu'il peut y avoir de matériel. On a aussi du matériel qui est jeté à la mise en service. On l'a acheté neuf. Et puis, il ne démarre pas. Parfois, c'est juste un câble qui est débranché. Sauf que la personne perd confiance dans son équipement et le jette. Un salon comme celui-ci, ça va générer des tonnes de déchets de matériel neuf qui aura juste été exposé ici sur salon, mais qui est plus neuf une fois qu'il a été exposé.
Et ça, le fabricant ne le vend pas en seconde main ?
Dans certains cas, il le fait. Ouais. Dans d'autres cas, il le fait sur 50%, 60% du parc qu'il a exposé. Et puis, au bout d'un moment, il reste toujours des équipements. Ils prennent de la place dans un dépôt. On fait passer un ferrailleur et on dégage tout ce qui reste.
Ouais. Donc finalement, vous avez un réel rôle à jouer aujourd'hui pour éviter, je dirais, cette absurdité
complètement.
Ouais, à la fois réelle et économique.
Il y a à peu près 40 000 tonnes de matériel qui sont jetées chaque année. Nous, sur le gisement qu'on collecte, on arrive à reconditionner plus de 80%. Donc c'est des gros volumes. C'est aussi 10 tonnes de CO2 économisées par tonne de matériel reconditionné. Ouais. 10 tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone d'un Français pendant un an. Donc quand on reconditionne une tonne d'équipement, et ça va vite au poids de nos équipements, on économise l'empreinte carbone d'un Français pendant un an.
Par rapport au fait d'en fabriquer un équipement neuf.
Exactement.
Ouais, donc c'est vraiment... Et vous avez commencé votre activité il y a combien de temps ?
Il y a 3 ans et demi.
Et qu'est-ce qui vous a amené à ça ?
Il y a eu plusieurs parcours différents, on est 3 associés. Pour ma part, je travaille en restauration. J'ai déménagé un restaurant, on l'a posé sur le trottoir, on a jeté, surtout en particulier un four qui fonctionnait très bien. Pendant tout le service, c'était un équipement. Le service s'est terminé, c'est devenu un déchet. On l'a posé sur le trottoir, on ne voulait plus en entendre parler. Mes associés, quant à eux, sont ingénieurs. Ils sont plutôt issus du monde de l'économie circulaire, celle qui proposait déjà des solutions, mais dans d'autres industries, donc sur les équipements électroménagers notamment. Et donc, on s'est rencontrés avec cette idée de... Il existe un marché dans lequel, aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il existe des solutions qui sont faites par d'autres ailleurs. On va pouvoir mélanger les solutions avec le problème pour apporter une solution à ce problème en restauration.
Allez-y, Skyol. On a parlé équipement, on a parlé matériel, donc là vous êtes toutes dédiées pour nous parler du programme, donc j'allais dire Best les Watts, mais c'est Best les Watts. C'est un programme qui existe depuis combien de temps et qui en est à l'initiative ?
Alors Best les Watts, c'est un programme qui existe depuis fin 2022, voilà, vous m'entendez peut-être mieux comme ça. Fin 2022, c'est un programme à destination des TPE-PME et tout particulièrement boulangerie-pâtisserie qui est au cœur du sujet. Concrètement, c'est un programme qui accompagne cette cible dans tout ce qui est économie d'énergie, puisque voilà, la boutique éco-conçue, ça passe aussi par la maîtrise de l'énergie. Très souvent, on se rend compte cette cible-là n'a pas forcément les clés pour comprendre déjà sa facture. C'est extrêmement complexe, c'est pas toujours en tout cas abordable. Et derrière, effectivement, il y a plein de petits gestes du quotidien qui mérite d'être mise en place au niveau du chef d'entreprise, du patron, mais aussi au niveau du collectif. Donc voilà, donc c'est vraiment le but de ce programme-là qui est gratuit puisqu'il est financé en fait par un dispositif du ministère de la Transition énergétique.
Comment est-ce qu'on prend contact avec vous quand on est un professionnel, quand on est un boulanger et qu'on veut s'installer ?
Alors c'est très simple, on a un site qui permet de s'inscrire en quelques clics, en 2 minutes. Mais ce n'est pas que digital, c'est important d'avoir un accompagnement humain. Donc on a le numéro d'une plateforme qui permet aussi de s'inscrire et puis on a quelques partenariats, notamment la Confédération nationale de la boulangerie qui a pu relayer aussi le programme, l'Association française du froid avec des acteurs voilà, qui pèsent, qui sont au contact hein, des entreprises. On a CCI et CMA également. Voilà. Mais sont le point d'entrée pour s'inscrire, c'est un numéro de téléphone ou un site, et c'est extrêmement simple. Et derrière, avec vraiment des économies d'énergie à la clé, jusqu'à 30%.
Alors, si on en revient au matériel, avant de rentrer un peu plus en détail sur tous les services que vous pouvez apporter, le matériel, est-ce que vous, je dirais en amont, vous allez accompagner le créateur d'entreprise pour un choix le plus vertueux possible, c'est-à-dire que pour que la consommation soit la plus faible possible, ou en tout cas la plus mesurée possible?
C'est une très bonne question. Alors, initialement, le programme était plutôt à destination des entreprises déjà établies pour justement leur faire faire des économies d'énergie, avec des outils notamment qui permettent de comparer la consommation entre le avant et le après avoir mis en place l'ensemble des éco-gestes, l'ensemble des bonnes pratiques. Mais c'est une très bonne question parce que de plus en plus, et effectivement on le fait désormais, on accompagne les créateurs puisque l'idée, c'est bien d'avoir connaissance des bonnes pratiques à mettre en œuvre dès le début, surtout dans un contexte de hausse constante des factures d'énergie. Donc c'est quelque chose, un enjeu qu'un futur entrepreneur doit tout de suite avoir en tête.
Quel est le plus gros poste de consommation énergétique dans une boulangerie? C'est le four ou le froid?
Très clairement, c'est les appareils de cuisson. Les appareils de cuisson représentent 66% de la consommation énergétique totale d'une boulangerie. Le froid, on sera plutôt autour entre 16 et 20%. Donc c'est très clairement les appareils de cuisson. Et voilà, l'accompagnement, les éco-gestes et tout l'accompagnement autour du changement d'équipement va particulièrement être focusé là-dessus, avec l'aide notamment des réseaux consulaires hein, que sont la Chambre de métier de l'artisanat, Chambre de commerce et de l'industrie.
Il existe des fours, je dirais, mieux isolés, qui consomment inévitablement moins.
Bien sûr, et surtout, il existe des équipements qui sont qui permettent de bénéficier d'aides financières. Ça, c'est très important. Il y a des équipements beaucoup plus beaucoup moins énergivores qui vont qui vont permettre aux chefs d'entreprise d'être accompagnés financièrement. Et ça, c'est un véritable casse-tête.
D'une aide pour l'achat.
Et ça, c'est extrêmement important d'être conseillé là-dessus. Ça change très régulièrement. Il y a des aides de l'État, il y a des aides de la région, il y a des aides du département. Il y a besoin d'être accompagné parce qu'on a vite fait de s'y perdre.
Oui, effectivement, c'est ce que je veux dire. Mais encore faut-il le savoir. Voilà,
encore faut-il comprendre, connaître les démarches et puis voir lesquelles sont cumulables, pas cumulables. Donc, c'est vraiment important d'être accompagné à ce niveau-là.
Alors, dans le cadre d'une aide pour une boutique existante, pour un four par exemple, quels sont les premiers conseils que vous donnez à un boulanger, ou je dirais, quelles sont les choses qu'il n'a même pas pensé mettre en place qui semblent évidentes?
Il y a plusieurs choses. Déjà, l'accompagnement, il va passer par comprendre mes équipements et identifier les équipements les plus énergivores. C'est pas forcément quelque chose qui est acquis. Comprendre ma facture. Et après, effectivement, dans les accompagnements, via les éco-gestes, ça va être comment optimiser la chaleur du four pour justement réduire le temps de cuisson. Il y aura aussi l'éloignement, ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas, d'éloigner les postes frigorifiques des points chauds. Ça peut représenter jusqu'à 10% d'économie d'énergie avec un bon aménagement de la pièce. Et puis après, on va plus loin, puisque ça peut être aussi des formations, un accompagnement individuel avec le déplacement d'un conseiller de la Chambre de commerce et de l'industrie ou Chambre des métiers de l'artisanat qui vient faire un diagnostic sur place et qui vient également de façon individuelle accompagner le chef d'entreprise et mettre en place un plan d'action.
Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme poste sur lesquels on peut jouer à l'intérieur du fournil pour la fabrication, pour réduire cette facture énergétique, si une fois, hormis le froid et le chaud, je dirais?
Il y a aussi l'éclairage. L'éclairage, ça peut paraître bête, mais c'est un point important. Et c'est aussi toute la sensibilisation du personnel. Éteindre la lumière, ça paraît très bête. Mais en fait, aujourd'hui, le personnel, le collectif, ne sera pas forcément sensibilisé de la même manière. Et quand chacun fait l'effort, voilà, à la clé, ça représente des économies d'énergie. Donc il va y avoir des conseils sur les éclairages, avec tout ce qui est éclairage, LED, etc. Comment optimiser la vitrine également et de réduire parallèlement à ça la facture énergétique. Donc oui, on parle principalement des points chauds et des points froids, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, notamment l'éclairage. Ouais.
Philippe Savageol, j'en viens à vous. C'est quelque chose auquel vous pensez, j'imagine, lorsque vous dessinez cette boutique, s'il y a une vitrine, s'il y a un comptoir à éclairer, automatiquement, on pense à des LED, à la consommation énergétique?
Alors, effectivement, on y pense, et c'est un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé avec notre comité RSE, c'est de sourcer des nouveaux luminaires. Parce que c'est énorme en fait. Hein, une fois que vous avez enlevé la partie chaud-froid, c'est effectivement les luminaires qui font la différence. On y pense beaucoup, oui. On réfléchit également à la façon dont on éclaire la boutique. Est-ce qu'on essaie d'être malin sur la manière dont on met en valeur telle ou telle chose?
Et en matière d'isolation, je pense à ça, on joue aussi sur l'isolation de la boutique pour justement éviter de trop chauffer ou au contraire de préserver une certaine fraîcheur en été. Il y a des matériaux qui existent aujourd'hui qui sont performants.
Oui, on le fait. On est techniquement contraint par beaucoup de sujets. Il y a plusieurs contraintes sur l'isolation thermique. La première contrainte, c'est la lumière. Dans une boutique, il faut que ça soit en mise en valeur. Et donc, le verre est très conducteur. Ça, c'est une difficulté qu'on rencontre. La deuxième difficulté qu'on rencontre technique, c'est la place. Les produits isolants prennent de la place. Quand on veut séparer le labo, c'est le cas, on sépare toujours le labo de la vitrine en elle-même où on reçoit les clients, c'est difficile de faire une vraie isolation thermique éco-responsable, parce que les produits d'isolation thermique ne sont pas tous encore disponibles en normes, ne sont pas tous des produits qui sont certifiés. Ils brûlent beaucoup, le chanvre, ça brûle, on ne peut pas le mettre partout, mais c'est extrêmement bon, extrêmement bien. Ça, c'est les difficultés techniques qu'on rencontre.
Vous connaissiez le programme d'Alazéis pour Best Les Watts?
Non, mais on va le promouvoir. Ouais. Et même, on va certainement promouvoir le réemploi. On pourra se voir par la suite, ensuite, pour discuter. Mais ça, tu pourrais typiquement rentrer dans notre panel de fournisseurs qu'on utilise, qu'on n'utilise pas forcément, mais qu'on met en relation avec nos clients quand on éco-conçoit nos boutiques.
Ouais, parce qu'à ce jour, vous êtes prescripteur de matériel ou vous laissez cette part-là au boulanger, au pâtissier qui, lui, sait précisément ce dont il aura besoin?
Le chaud et le froid, la technique, ce n'est pas notre métier. Nous, on va concevoir l'aménagement qui va autour, mais chaque boulanger, chaque restaurateur, quand on fait un petit peu ses façons de faire, ses habitudes, et c'est à eux qu'on laisse cette compétence. Mais par contre, on peut les mettre en relation avec des gens qui savent leur vendre le produit qu'ils veulent, moins cher.
Vous jouez aussi sur le mobilier, les chaises, les tables, la moquette, tout ça, c'est votre domaine?
Bien sûr, on est agenceur également, on a une usine, on fabrique notre propre mobilier. La difficulté qu'on rencontre, c'est celle que je vous disais, c'est l'œil. On peut faire beaucoup de réemploi. En mobilier, c'est simple de faire du réemploi, mais il n'est pas toujours très bien accepté visuellement. On a des choses qui peuvent être les produits upcyclés, recyclés, sont encore un petit peu en décalage de normes visuelles par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui peut mettre des gens un petit peu, certains clients en défiance par rapport à ça. Une chose très simple qu'on a fait, c'est que vous savez, quand vous installez une boutique, vous faites ce qu'on appelle une base vie, parce qu'il faut que nos ouvriers puissent pouvoir se restaurer. Voilà. Et alors, on a pris la décision il y a quelques années de faire du réemploi à 100% sur tous les mobiliers de base vie. Voilà, c'est une des choses très simples qu'on a mis en place. Les tables de chaises, c'est les mêmes. On ne les achète pas, on les récupère. Elles sont dépareillées, elles ne sont pas belles. Mais elles ont une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième vie. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau chantier, ben on les prend, on va les remettre sur le nouveau chantier. Il y en a quelques-unes qui rendent l'âme au milieu. Mais sinon, on arrive à reconstituer facilement.
Mais on ne refait pas du velours, un habillage de...
C'est difficile à refaire, vraiment.
Okay. Ouais. Ouais, donc là, en fait, on prend à la fois, ça a été une... Je ne sais pas si elle est toujours à la mode, mais on a beaucoup vu des endroits qui s'ouvraient avec des vaisselles dépareillées, des chaises dépareillées. Ça a été une grande mode pendant un moment. On ne savait pas trop si la déco était finie ou pas encore, parce qu'on se retrouvait dans les choses qui ressemblaient presque à des chantiers. Mais il y a une tendance comme celle-là. Elle existe toujours ou on est revenu à des choses un peu plus léchées, je dirais?
L'injonction sociétale de faire de l'éco-conception, elle est là, elle va s'accélérer et nos clients, vos clients, vous demanderont ça. Ensuite, il y a un petit décalage temporel entre ce que les clients attendent et ce qu'on est capable de leur donner en termes de normes. Et ensuite, il faut bien réfléchir à sa zone de chalandise. On ne va pas concevoir, éco-concevoir une boutique de la même manière, avec les mêmes codes et les mêmes produits dans le Marais, par exemple, à Paris, et à Dijon ou en Lozère. L'attente de la clientèle est très différente. Même si la volonté d'éco-conception de réutiliser les matériels, d'avoir des matériaux naturels, sera toujours là. Peut-être qu'on va utiliser des bois bruts, plutôt que des bois à des endroits et des choses un petit peu moins bling-bling. Sauf si vous êtes dans des zones de chalandise qui l'acceptent et qui le demandent.
Vous parliez tout à l'heure de la loi AGEC, c'est ça ? Est-ce que cette loi va obliger sur les 5-10 ans à venir, est-ce qu'il y a des obligations qui seront mises en place quand on voudra créer ou refaire un commerce dans l'emploi, justement, soit le réemploi de mobilier, soit l'emploi de tel ou tel matériau pour... ou un pourcentage d'équipement
Alors, c'est une bonne question. Je ne la connais pas très bien, mais à ma connaissance, elle n'impose pas de pourcentage de réutilisation. Elle est plus sur les énergies, je crois, cette loi. Et sur le, c'est le pendant du degré tertiaire appliqué aux boutiques. Donc, elle est plus sur les énergies, à ma connaissance.
Vous avez une notion de ça, Lazaïs, ou par rapport à la loi AGEC, aux obligations de réemploi, par exemple, avec justement cette idée d'une consommation réduite ou mesurée ?
Alors, ça fait partie du conseil, effectivement, notamment via les chambres consulaires. Après, on sera moins sur ce côté réglementaire que plutôt le bon usage des équipements, les éco-gestes et le changement d'équipement qui va être. Mais effectivement, on peut aller plus loin, notamment avec l'accompagnement individuel, avoir un peu plus de billes sur justement toute cette partie réglementaire.
AGEC, ça veut dire anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc ce qu'on trouve de la loi AGEC qui va concerner les boutiques, ça va beaucoup être l'interdiction du plastique à usage unique, des emballages jetables. Ça va être ça le gros volet pour la restauration à emporter. Ce qu'on va trouver pour les collectivités, c'est beaucoup achat de matériaux issus du reconditionnement. Et ce qui concerne tout le monde, c'est une réorganisation des modes de fin de vie. Donc aujourd'hui, quand vous jetez du matériel ou de l'équipement, c'est géré par des éco-organismes. Ces gens-là, leur mission pendant les 20 dernières années, ça a été de favoriser le recyclage. Recyclage, on prend cette table et on la remet à l'état de bois. On va chercher la matière première. Et là, on a une réorganisation des modes de fin de vie dans la loi AGEC, disant le réemploi doit être privilégié au recyclage. Et le recyclage, évidemment, privilégié par rapport à l'enfouissement, par exemple. Donc cette table, on va essayer de la garder en tant que table. Si jamais on échoue à la garder en tant que table, on va la transformer en bois. Si jamais on échoue à la transformer en bois, on l'enfouit ou on la brûle. Mais c'est vraiment cette hiérarchisation des modes de fin de vie qui concerne l'intégralité des éco-organismes.
Ouais, c'est sur ce biais-là qu'on va travailler. Donc, vous voyez, Philippe Savageol, vous étiez dans la bonne direction dans le remploi de chaises et de tables. Comment est-ce que tous les trois, vous voyez l'évolution sur les 5-10 ans des boutiques qui vont arriver ? À quoi vont-elles ressembler ? Quels sont les matériaux qui vont être privilégiés ? Est-ce que finalement, on aura des boutiques qui seront toutes similaires par ces préceptes ?
Je crois que ça, en fait, c'est exactement l'inverse. On voit des partis pris très, très forts chez nos clients. Les clients qui viennent nous voir aujourd'hui avec un projet d'éco-conception sont très avancés dans cette volonté de dire quelque chose à la société. Et on a des partis pris qui sont extrêmement forts. Donc, on va vraisemblablement, en termes de décoration, hein, on va vraisemblablement avoir des boutiques qui seront très uniques les unes avec les autres. Nous, on le voit. Je vous ai parlé de notre client copain. Pour lequel on avait fait le concept, on a fait une boutique qui s'appelle Crème, qui n'est pas tout à fait de la boulangerie, mais qui n'est pas loin, et qui ont pris des partis pris extrêmement forts. Typiquement, Copain, le choix qu'ils ont... Ils nous ont demandé de casser les codes de la boulangerie. Donc, on a appliqué les codes de la lingerie aux croissants et aux effets de boulangerie.
Si ça vous amuse, il y a une boutique Copain à Beaugrenelle dans le 15e arrondissement, donc c'est pas très loin d'ici, si vous voulez aller jeter un œil pour voir ce à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est des toutes petites boutiques. Hein.
Et c'est complètement disruptif, vous n'avez pas l'impression d'entrer dans une boulangerie.
Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a quelques pains qui sont exposés, on ne sait pas où il est fabriqué. Il y a une approche, mais vous me disiez, et puis je l'ai constaté puisque je suis passé deux ou trois fois donc, ça fonctionne.
C'est une boulangerie sans gluten.
Ah, c'est une boulangerie sans gluten, Copain. Ouais. Okay, ça, je ne le savais pas. Un petit mot sur l'évolution.
Je pense que l'évolution, elle va déjà être moins évoluante. Si on veut éco-concevoir, il y a une notion de concevoir quelque chose qui va rester dans le temps et d'arrêter de refaire les concepts tous les 6 mois, 12 mois, 18 mois. Comme en restauration, on voit aujourd'hui des concepts qui disparaissent avant même d'avoir été déployés à l'échelle de la France. On va aller vers des concepts qui durent plus longtemps pour des raisons d'économie et pour des raisons d'écologie, encore une fois. Et je pense que du coup, on va avoir de plus en plus de choses qui vont être adaptables. Des vitrines sur lesquelles on va pouvoir simplement changer l'habillage pour pouvoir garder l'agencement, mais changer quand même un peu de style. On va déplacer les choses sans pour autant les transformer, sans pour autant les jeter et en racheter des nouvelles. Moi, je pense que on va aller dans un ralentissement des transformations. En tout cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux. et des transformations plus petites, plus sur le dernier petit bout de visuel et moins en profondeur.
On va réhabiller légèrement, plus que de tout casser pour tout refaire, parce que c'est vrai qu'il y a comme une grande tendance sur les 20 dernières années, notamment à Paris, où d'une rue à l'autre, on voit les boutiques s'ouvrir, fermer. Parfois, ça ouvre un an quand il s'agit de restaurants. Puis la personne doit estimer que seul le décor était en cause. Donc, on recasse tout ce qui a été fait un an auparavant et on refait intégralement. C'est assez incroyable. Donc, effectivement, je pense que c'est la bonne voie. Aziz Kayol, sur la consommation énergétique, comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la hausse de l'énergie. Va-t-on tendre alors à un prix qui va du kilowattheure qui va baisser ou à des appareils qui seront de moins en moins énergivores?
Sur le premier point, personne ne nous le dit, mais effectivement, c'est là où ce n'était pas du tout un enjeu il y a quelques années. Je pense qu'il n'y avait pas encore c'était vraiment pas un enjeu. Maintenant, ça le devient et nécessairement maîtriser sa consommation d'énergie, baisser sa consommation d'énergie, c'est une évolution des mentalités, c'est une évolution des besoins. Il y a aussi tout le besoin de sensibiliser son personnel. Et donc on va forcément arriver sur des besoins d'avoir des appareils beaucoup moins énergivores et puis ce besoin de déployer des bonnes pratiques, des éco-gestes par tous pour répondre à cet enjeu et éviter effectivement des coûts extrêmement pesants sur une boulangerie.
Merci à tous les trois. Avant de vous libérer, je vais proposer au public présent de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions, l'envie de poser une ou plusieurs questions à l'un de nos trois intervenants? Vous levez la main. Et surtout, ne soyez pas timide. Donc, ils ont été parfaits, ils ont répondu à toutes vos interrogations. C'est possible, la timidité peut être une explication. Pas de questions? Alors si pas de questions, je vous invite à les applaudir pour être venus échanger avec nous ce matin. Aziz Kayol, responsable marketing du programme Besley-Watt, Philippe Sabajol en face de moi, directeur des cabinets Isospace, et Bastien Rambeau, cofondateur de la société Vesto. Merci à tous les trois. Dans quelques minutes, nous allons accueillir Nina Métayer, élue meilleure pâtissière, meilleure boulangère du monde il y a quelques temps. Elle va venir avec nous pour un long échange de 35 minutes. Rendez-vous d'ici que je regarde ma montre. Allez, 15-20 minutes. À tout à l'heure.